Assalamu alaikum wa alaikum salut. Merci d'avoir cliqué sur play et bienvenue dans la Tay. La Tay, ça veut dire le thé en arabe. La Tay, c'est une bande d'amis, tous descendants d'immigrés maghrébins, qui parlent de sujets qui les touchent. On est un peu une version dématérialisée des discussions que tu peux avoir avec tes potes au grec ou en famille autour d'un bon thé le soir. La Tay, c'est des moments de discussion et de partage sans prétention aucune et ouvert à tous. Ce n'est pas une émission historique ou documentaire. Ce n'est pas un podcast formel de radio. Ce sont des petits bouts de nos vies et de nos têtes qu'on aimerait partager avec vous. C'est notre manière à nous de rendre hommage à nos racines et à nos cultures. Allez, venez, on vous sert un verre. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Tay. On espère que vous allez bien et que, oula, je l'ai grave dit en mode français là, La Tay.
Ouais.
Aujourd'hui, on est en petit comité puisque nous ne sommes que trois à ma table. Théophile, comment tu vas?
Ça pourrait aller mieux. Il faut vraiment que je reprenne mon rythme de sommeil de façon décente. Les vacances ne me réussissent pas.
Si, ça dit quoi?
Tout est bon.
Avant de démarrer l'épisode, je voulais un peu... Enfin, des fois, on reçoit des mails avec La Tay et du coup, je voulais un peu mettre en place une sorte de... Pas un courrier de lecteur, mais je trouvais qu'il y avait des messages qui étaient intéressants à lire. Il y en a qui sont très très longs, celui-là il est vraiment super long. Mais je pense que lire ce message peut aider parce qu'il y a aussi une demande en fait dans ce message. Donc c'est un message qui nous vient d'Anissa, qui est une étudiante de 23 ans d'origine marocaine. Et donc elle nous dit « J'écoute votre podcast depuis un moment déjà et vraiment je vous félicite. Ça fait plaisir d'avoir un canal sur lequel des jeunes issus de l'immigration peuvent parler des problèmes identitaires. » Du bled et de religion, culture, vraiment force à vous. Bah déjà, merci. J'ai écouté votre dernier podcast sur les berbères et ça m'a beaucoup intéressé. On voit que vous êtes bien documenté, il y a des messages vraiment positifs qui en ressortaient. Je vous envoie ce mail parce que votre podcast fait écho à une série de recherches que je fais sur mes origines, sur mon histoire familiale actuellement. Je sais que de mes parents, que je suis d'origine marocaine, que ma famille est d'un patelin près de Taza, pas loin de Fès. Sauf que j'ai appris il n'y a pas longtemps que ma famille du côté maternel ne venait pas de Taza. Et mon grand-père a dit, je cite, qu'on était de la tribu des Sanhaja sur Internet. J'ai trouvé que c'est un groupe ethnique regroupant plein de tribus berbères dans tout le Maroc. Du coup, je suis perdue parce que mon grand-père n'a pas plus d'infos que ça. Et je n'arrive pas à lâcher l'affaire. Ça m'intrigue de connaître l'histoire de mes ancêtres. Je sais que je suis issue d'un gros melting pot arabo-berbère, que j'ai des origines rifaines et autres, mais j'ai envie de retracer un peu le cheminement. Le nom de famille de ma mère est Albi, du coup j'ai l'espoir de trouver des infos là-dessus car c'est un nom assez commun au Maroc mais aussi en Algérie. Alors je me lance, je jette une bouteille à la mer. Si vous avez des infos sur ce que je viens de vous exposer ou vous connaissez quelqu'un qui en saurait un peu plus sur le nom de famille Talbi, ce serait top. Et j'ai vu que vous êtes assez bien informé sur l'histoire berbère au Maghreb, du coup je serais intéressée d'avoir des références. Ça a l'air un peu bizarre de demander des infos sur mes origines comme ça par mail à un podcast, mais j'ai peu d'éléments car ma famille vivait dans des coins un peu reculés au fonctionnement tribal même après la décolonisation, donc il n'y avait pas d'état civil ni de date de naissance précise et mes grands-parents n'en savent pas plus. Dans tous les cas, même si je ne trouve rien sur ma famille, je serais heureuse d'en apprendre plus sur mon pays d'origine. Continue à faire des podcasts de dingue, Anissa. Voilà.
Un démarrage émouvant.
Et du coup, enfin, si vous avez n'importe quelle info qui pourrait être, pourrait être utile à Anissa justement, n'hésitez pas à nous envoyer un message et on pourrait vous mettre en contact. Donc voilà, je sais que c'est vraiment, comme vous l'avez entendu, un sujet qui la touche. Et puis elle a donné des noms, elle a donné des tribus. Donc vraiment, n'hésitez pas. La communauté, elle est aussi là pour ça et peut-être qu'elle va trouver... peut-être qu'on va réussir à mettre en lien 2-3 indices sur tout ça.
Il faut qu'elle nous tienne au courant, du coup, maintenant.
Ouais, à mort. Un autre sujet que je voulais aborder, c'était l'enquête de Mediapart qui est sortie sur l'industrie du podcast. J'ai juste lu le premier article, pas le deuxième. Mais, enfin, en gros, il y a plein de témoignages sur, justement... les grosses boîtes de podcasts en France et des gens qui ont bossé dans ces boîtes de podcasts qui racontent donc burn-out, dépression, des conditions de travail déplorables, des salaires précaires et c'est vrai qu'on est vraiment dans ce truc où, genre, aujourd'hui, le podcast, c'est un média qui est hyper mis en avant et qui est hyper utilisé. On sait que pendant le confinement, il y a eu plus de 40... Enfin, ouais, il y a eu une explosion. On dit qu'aujourd'hui, il y a presque un tiers des Français qui écoutent des podcasts maintenant. Et en fait, c'est fou de se dire que niveau business, bah, il n'y a toujours rien qui suit, en fait, que c'est toujours une industrie hyper précaire. Nous, pendant un moment, on se posait beaucoup la question de rejoindre une maison de podcast, de savoir est-ce qu'on va faire de l'oseille, de comment on pourrait, en fait, rendre ce projet lucratif aussi. Mais à la fin, bon, ça ne s'est jamais fait. On n'a jamais vraiment... Enfin, l'occasion, en fait, ne... à la fin, bah, à chaque fois, il s'est passé des... Enfin...
Ouais, à chaque fois, il y a eu une petite douille.
Ouais,
une
petite douille.
Un micro-grain de sable dans l'enrouage de l'univers qui a fait qu'on est passé à côté.
Un petit grain de sable, un petit grain de malhonnêteté.
Ouais, mais finalement, on a évité une balle. On a évité
ouais,
une balle.
C'est
et
ça.
Et pour le coup, on reste les maquisards, on reste les félagas du truc.
C'est
on,
ça,
on est planqué
voilà,
dans nos bois et personne connaît nos tronches et on émet sur les ondes pirates. Non, non, et plus sérieusement.
Voilà. On a surtout beaucoup de chance
ouais.
de. On a surtout beaucoup de chance que ce ne soit pas notre activité principale et qu'on fasse ça de façon bénévole et que pour le plaisir et qu'on fasse ça de façon totalement indépendante. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va nous donner d'ordre, nous dire quoi faire, quand faire, comment. Mais bon, on pense aux personnes pour qui c'est le cœur de métier et qui travaillent dans ces industries-là et qui ont envie de faire de ces industries-là bah, leur vie, quoi. Non. Et vraiment, bah, on apporte tout notre soutien à toutes les personnes qui ont témoigné, tout notre soutien à toutes les personnes qui travaillent dans l'industrie des podcasts et on espère que les choses vont changer.
Quand tu dis qu'on espère que les choses vont changer, il y a quand même de quoi être optimiste à l'avenir dans le sens où la tendance qui se dessine, c'est celle du podcast. Les youtubeurs font des émissions, font des, du contenu qui t'invite à écouter en faisant autre chose. Et ils font du contenu qu'ils doublent et sur YouTube et sur podcast. Je te parle même pas des Twitchers qui font Twitch, YouTube, podcast, Spotify, plateforme de streaming. Donc l'avenir se dirige vers ça. Donc il y a de quoi être optimiste. Un peu comme le modèle du rap. Les premiers rappeurs, ils gagnaient pas d'argent. Il y avait pas ce modèle de burn-out, mais il y avait un peu ce modèle d'irrespect venant de la grosse institution professionnelle pour laquelle tu produisais. Et cette non-considération, c'était ça le terme que je cherchais, mais à force de temps, d'inventivité, toujours plus de concepts, et ça va gratter des parts de marché, et il y aura une considération tout autre pour les créateurs de contenu de type podcast à l'avenir. Quoi.
Mais, enfin, est-ce que toi, genre, tu l'imagines? Enfin, parce que autant, tu vois, genre dans la vidéo, tu sais, dans le podcast, des fois, t'as des podcasts où t'as des pubs, par exemple.
Ouais.
Mais pour l'instant, genre, j'arrive pas à bien imaginer, genre, comment, par exemple, un créateur indépendant pourrait gagner de...
C'est qu'une question de part de marché. Genre, quand le créateur... Regarde, il y a des créateurs de contenu, entre grands guillemets, qui font beaucoup d'argent avec un contenu aussi rapide à consommer qu'une story ou qu'une photo, tu vois. Quand le public, parce qu'aujourd'hui c'est ça qu'on consomme beaucoup, quand le public continuera son avancée vers le format podcast et qu'il y aura beaucoup plus de gens intéressés par les podcasts, ça représentera plus de monde à toucher, donc plus d'argent à injecter, donc plus de créateurs indépendants et largement à l'aise dans leur profession et dans leur passion.
Absolument vrai. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi dire qu'on était extrêmement chanceuses et chanceux d'avoir les moyens d'avoir les moyens de pouvoir faire du podcast sans en dépendre financièrement. Énorme shout-out à tous les lieux où on a enregistré, que ce soit chez Kauter, mais aussi à la fac de Jussieu. Merci le service public, vous avez financé l'islamo-gauchisme once again.
Merci Yard.
Et Yard Media, ouais.
On enregistre
depuis quelques temps déjà.
Ouais, depuis, bah, ça va bien, ça va faire. Là, c'est la deuxième année qu'on enregistre.
Ouais, deuxième année consécutive. Donc, non, très clairement, il y a des.
Et transition parfaite. Pourquoi on.
Pourquoi est-ce qu'on a les moyens ?
Pourquoi est-ce qu'on a les moyens ? Parce qu'on taffe, pour la plupart d'entre nous. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Le monde du travail.
Sidox, je t'invite à nous parler un peu de ton métier, de ce que tu fais, de comment t'es entré aussi là-dedans. Et est-ce que finalement tu t'y retrouves, autant personnellement, mais aussi de façon un peu plus communautaire ?
J'ai dû l'évoquer dans quelques épisodes, mais je suis dans l'informatique. Si je ne l'ai pas évoqué, tadam, vous l'apprenez, je suis dans l'informatique. Après, des petits passages, médecine, tout ça. Maintenant, je suis en master en informatique dans le développement web et mobile. J'ai découvert l'apprentissage, l'alternance, la meilleure solution pour quelqu'un comme moi qui décrochait, enfin, perdait un peu d'intérêt pour le système scolaire classique et attentiste. J'ai besoin de pratiquer.
Ouais.
Genre.
Oh, comme je te comprends.
Mais regarde, on fait des podcasts, j'écris des livres, on fait des vidéos, des projets de fou. Mais genre, à l'école, je dois juste être assis et attendre. Non, j'ai besoin d'être beaucoup plus proactif que ça. Et donc, du coup, j'ai pu l'être à travers l'apprentissage. J'ai travaillé dans une grande boîte que je vais pas nommer, une grande boîte de finance, où j'ai eu l'occasion d'apprendre beaucoup de choses, de pratiquer dans des projets plus qu'intéressants et de découvrir les rouages administratifs d'une multinationale qui m'ont brisé la tête. Et là, maintenant, je pars dans une petite start-up qui fait de l'intelligence artificielle et qui me promet de belles aventures. Je suis très emballé par la suite du projet, quoi.
Trop cool. Quant à moi, j'ai un parcours assez atypique aussi, dans le sens où j'ai pas fait d'études d'informatique et du coup je bosse dans l'info de nos jours, donc du développement un peu différent de ce que fait Sidox, mais voilà. Et à côté de ça, j'ai aussi des engagements communautaires dans la communauté de l'open source qui ont un aspect positif sur ma carrière.
Tu peux pas, je suis désolé de t'interrompre,
vas-y,
avant
vas-y.
De passer à Lina, tu peux pas mentionner ça sans expliquer brièvement ce qu'est l'open source.
L'open source et le mouvement de logiciels libres, ce sont des idéologies, des courants idéologiques qui disent que on peut aller plus loin quand on fait du code, quand on produit des choses, quand on crée, si on peut mettre nos ressources en commun, et ça veut dire créer du code qui est réutilisable de façon gratuite par d'autres personnes, que ce soit pour des raisons commerciales ou non, et du coup plus ou moins ça donne accès au travail en fait de tout ce qui a produit l'humanité avant toi, sans que tu aies à payer de licences abominablement chères ou de choses comme ça.
Pour les quelques curieux qui commenceraient à s'intéresser à la tech, ou même les gens qui ne connaîtraient pas du tout, le grand exemple de l'open source, le grand vivier de l'open source, c'est GitHub, où quand on crée un features par exemple,
ouais,
un menu par exemple, en tant que développeur web, si quelqu'un crée un menu ultra stylé, il va créer un repo sur GitHub. J'essaie d'éviter les termes
techniques.
Un répertoire pour y placer le code que vous pourrez cloner et utiliser, mais aussi de la documentation pour vous dire comment l'utiliser, pour évoquer peut-être certains problèmes. Il y a un espace commentaire, c'est du partage pur et dur de contenu.
Ouais, c'est ça, ouais.
Dans lequel Théophile est acteur sur une librairie particulière, un langage.
Non, même, ouais, dans un langage, ouais, que j'utilise,
ouais,
pour le taf.
Langage.
Et pour le coup, c'est vrai qu'avoir un engagement public, ça a joué en ma faveur énormément.
Ouais.
J'ai des responsabilités assez importantes de nos jours dans l'écosystème où j'évolue. Donc, c'est assez cool. Et voilà, et encore une fois, j'ai zéro diplôme, mais j'ai le bac, hein. Après, j'ai fait des études après le bac, mais.
Que t'as pas mené jusqu'au bout,
ouais,
de papier,
ouais,
final.
Ouais, c'est ça. Donc, pour vous dire, j'étais en école de commerce pendant un an et demi et j'ai fait un burn-out. Et donc, ça s'est très mal passé. Et après, j'ai trouvé un taf de dev à temps partiel au SMIC. Et c'est ça qui m'a lancé vers l'indépendance, vers sortir de chez mes parents, avoir fiche de paye, tout ça. Donc, voilà.
Avant de passer à des tafs de dev où t'étais plus payé au SMIC.
Ouais, non, mais c'est grave, c'est le gros choc. Hein, parce que moi, avant, je servais. Hey, j'étais barman et tout, je servais de la bière, j'ai bossé à Corotel Arena, au SMIC, hein, salaire minimum, ouais, et tout. Et le jour où on m'a proposé mon premier salaire développeur, tu sais, un peu inflation, tu vois, je suis. Oh
ah, non, oh non, c'est. Franchement, si vous hésitez à faire de la dev, l'informatique. Les gars, il y a quel type d'étudiant qui reçoit quotidiennement des offres de taf sur LinkedIn, par mail, etc. Franchement, il n'y a, ouais, pas 1000 domaines. Donc, si vous hésitez, foncez. Si vous avez déjà votre domaine, profitez et foncez avec tout le courage du monde. Et maintenant, c'est à Lina.
Ouais, parce qu'après, c'est vrai que c'est aussi un domaine qui n'est pas.
Ouais, qui n'est pas accessible, qui n'est pas passionnant pour tout le monde.
Ouais, c'est ça. Enfin, ça dépend. Après, c'est des affinités.
C'est ça.
Chacun doit trouver ce qu'il a envie de faire. Bah moi c'est très drôle parce que, enfin, j'ai fait, mais en fait on est tous dans l'informatique là, j'y pense.
Ah, on est geek.
Autour de la table, ouais, un peu.
Pareil, moi j'ai commencé, j'ai fait des études d'informatique, donc j'ai fait une double licence en informatique et en design. Et maintenant je suis en master en intelligence artificielle et robotique. Mais ce qui est très drôle, c'est que toutes mes expériences professionnelles n'ont rien à voir avec mon domaine d'études. C'est-à-dire que j'ai commencé en lançant mon blog Vraie Meuf. Après j'ai commencé à écrire comme rédactrice pigiste dans des médias. Enfin, je parlais principalement de rap et culture, lifestyle, en gros. Et après ça, j'ai réalisé un film, j'ai bossé avec des marques. Enfin, en fait, genre, il n'y a aucun sens. Donc, du coup, genre, je pense que j'ai une vision du travail et une façon de travailler aussi qui fait que les contraintes, j'y arrive pas. Enfin, moi, par exemple, je suis à la fac. Et pas dans une école pour une raison, c'est parce que les horaires, c'est mort. Genre, je peux pas avoir d'horaire, ça me... Enfin, en fait, je ne comprends pas l'intérêt de venir quelque part de 8h à 18h parce qu'on t'a dit. En fait, j'aime bien, genre, tu vois, avec la fac, le fait que ce soit flexible, le fait que s'il y a un amphi, tu peux pas y aller, t'y vas pas, mais tu sais que tu peux... Après, ça demande beaucoup d'autonomie aussi. Ouais. Et en fait, cette autonomie-là, du coup, je l'ai toujours eue aussi dans le monde du travail parce que... J'ai eu plein d'expériences, mais j'ai surtout bossé en free ou comme acteur extérieur à des médias ou des entreprises, et ou comme collaboratrice. Mais du coup, j'ai jamais été salariée, par exemple.
Okay.
Genre jamais. La première fois que j'ai fait un stage, à part le stage de troisième, c'était cet été. Et encore, c'était un stage où, franchement, je venais quand je voulais, je partais quand je voulais, tant que le travail était fait, on s'en foutait que je sois là ou pas.
Ouais, y a un peu ça, ouais.
Et c'était un stage où je me suis retrouvée à faire un peu de code, mais en même temps un peu de DA, mais en même temps un peu de stratégie de com, un peu de réseau, un peu d'électronique. Et du coup, c'était un stage vraiment où, moi, j'ai besoin en fait d'endroits où je peux
t'exprimer.
Ouais, ou en fait non, je pense d'endroits où les gens ils me font confiance, tu vois.
Ouais.
Je pense que c'est surtout ça. Quand j'ai fait mon film, ce que j'ai vraiment aimé, c'était que j'avais liberté totale, tu vois. C'est que il y a personne qui m'a dit malgré le fait que j'étais en équipe et qu'il y avait un producteur et qu'il y avait d'autres gens qui avaient leur mot à dire et qu'on était deux réalisateurs, il y avait quand même ce truc où je donnais une idée, tout le monde disait ok, on y va, tu vois. Même si j'étais la plus jeune, même si j'étais une meuf, même si, enfin, ça c'est un truc où, même si j'étais la moins expérimentée dans le milieu de la réalisation, du cinéma, ouais. En fait, tu vois, on m'a grave dit franchement, on suit toutes tes idées.
T'as une vision.
Ouais, on suit ta vision, en fait, c'est ça.
C'est ça.
Et je sais que par exemple, j'ai une expérience qui s'est très mal passée. Où, en gros, quand j'étais en première année, on devait faire un stage. Et je me suis retrouvée un peu par hasard dans un cabinet d'urbanisme. Ça avait rien à voir avec mes études en plus, ça m'intéressait pas trop. Donc, dans un cabinet d'urbanisme, premier jour de stage, avec que des architectes. Et donc, la meuf, elle me dit, tu sais faire ça? Je dis non. Tu sais faire ça? Je dis non. Tu sais utiliser le logiciel? Non. Ok, écoute, tu vas te mettre dans un bureau, tu vas appeler des entreprises pour acheter, genre, des matériaux. Et donc, je fais ça, genre, je suis archi mal. Genre, vraiment trop mal. Du coup, je fais que d'appeler des gros trucs en mode, bonjour, j'aurais besoin de machin, de briques, ce truc-là dans le catalogue. Enfin, c'est bref. Et en fait, ça m'a tellement stressée et j'étais tellement pas bien que je suis partie le midi pour manger, je suis plus jamais revenue.
Oh merde!
Elle a quitté la partie.
Genre, vraiment, je suis plus jamais revenue.
Oh là là!
Et après, j'ai fait une session de stage. Genre, je dis non, je veux pas. Mais du coup, j'ai très peur de ce que ça va donner le jour où je vais devoir... si un jour je dois bosser en CDI, j'ai très peur de ça. Mais bon, après, je me dis que j'ai eu plein d'opportunités qui vont me permettre de toujours bosser dans un truc très flexible.
Ouais, je pense aussi, ouais.
Ouais. Après, il y a quand même ce truc où flexible, ça veut pas dire que tu bosses pas, genre...
Ouais, non. Enfin, ça veut dire que tu bosses tout le temps, et voire même plus.
C'est ça, c'est plus ça, genre... Mais ça veut surtout dire qu'en fait, tu choisis plus ou moins... Enfin, tu peux choisir de répartir ton travail comme tu le veux, et pas de travailler d'une telle heure à telle heure. C'est plus ça, quoi. Mais souvent, on a cette idée de genre flexible freelance, en mode, aujourd'hui, tu veux sortir te faire une balade, tu vas pas bosser, genre...
Ouais. Genre, tu vas faire ta balade et tu rentres bosser.
C'est ça.
Ouais. Sauf jusqu'à 3h du mat.
Exactement.
Pour compenser le temps perdu. Ouais.
Donc, oui, on avait évoqué quelque chose avant l'enregistrement. C'était cette idée de prendre ses clics et ses claques et partir. Parce que quand on a dit qu'on allait évoquer l'article du monde du podcast, sur, je vous ai parlé d'une expérience en grande entreprise, du coup, pour ma première alternance, où lors d'une discussion entre collègues, mon tuteur, ma manager, ils ont commencé à évoquer une collègue dont j'ai oublié le nom, qui terrorisait tout le monde. Des fois, elle en prenait un rendez-vous, il sortait, il pleurait. Mais je me suis dit, wow, attends. Là, il y a des pères de famille, des mères de famille, ils ont des enfants devant qui ils font figure d'autorité et tout. Mais au taf, ils se font matraquer la gueule. Mais jamais de la vie. Teste-moi, vas-y. Je quitte. Et il n'y a aucun métier du monde qui mérite ça, qui mérite qu'une personne ait le pouvoir de te faire pleurer, de te briser la tête. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je parle peut-être avec ce confort-là, là, de travailler dans un domaine qui est très demandeur, où on bouge, on a beaucoup d'opportunités. Peut-être que si j'avais fait carrière dans la restauration, comme j'ai pu tester en job étudiant, dans la vente de prêt-à-porter, tout ça, j'aurais réfléchi autrement. Mais frère, de ma position, je peux pas tolérer ça. Si on doit évoquer le monde du travail, un truc qui m'a choqué de loin et que j'attends de pied ferme pour voir comment je réagirais, parce que je pense que ça va être marrant, c'est ça, là, le côté pression au taf, pression de dominance, parce que tu parlais de ça, le côté la confiance, le cadre des horaires, ce côté un peu pression, ça ne va pas exister. Donne-moi des règles. Pas des ordres.
Ouais, je sais ce que tu veux dire.
Et ça fait toute la différence. J'accepte des règles, mais j'ai un seul père.
Yes.
Après ça, enfin, en vrai, ça, c'est un discours que tu peux avoir, qu'on peut avoir, parce que, alhamdoulilah, on est pas dans la précarité ou quoi, tu vois.
Complètement.
Parce que, enfin, moi, à un moment, en gros, quand j'ai commencé Vraie Meuf, je bossais dans des entrepôts à côté pour payer mes pellicules et payer genre, mes trucs et tout. Et en gros, c'était des entrepôts où, enfin, tu sais, tu viens, tu pointes, tu déballes des colis, tu fais des colis, c'est, tu sais, les colis à envoyer.
Ouais, complètement, la préparation de commandes. Ouais.
Et ça, c'est l'esclave, enfin, c'est que des ordres, genre ça, tu vois, genre, j'ai fait ça pas longtemps, mais il y avait des filles avec moi, parce que c'est quasiment que des filles aussi. Et t'as ce truc vraiment de, c'est hyper strict, tu viens à 8h, tu pointes à 8h, genre 8h01, rentre chez toi, t'es pas payé. Tu te fais fouiller parce qu'il faut pas que tu voles ce qu'il y a dans les colis. Tu te fais crier dessus si tu fais pas le chiffre que t'es censé faire dans l'heure.
Tu vois, jusque là, j'acceptais le crier dessus, je peux pas. Et je te dis pas forcément partir. Hein.
Mais en fait, moi, tu vois, je peux me dire, I'm out. Genre, j'y vais, je me casse, j'en ai rien à faire. De toute façon, je suis à l'école encore, je suis habituée à mes parents, y a rien. Mais la daronne.
Ah oui, non, je... Oui, je.
Y a rien qui, en fait, va se dire I'm out et qui après, comment elle va.
C'est pour ça qu'il y a des
gens qui acceptent ça, c'est la précarité, t'es obligé d'accepter n'importe
complètement.
Quoi.
Complètement, c'est pour ça que je parlais que. C'est pour ça, complètement, que je parlais que de ma situation, tu vois. Genre, je dis pas que c'est quelque chose de valable à 100%. Et oui, il y a eu d'autres expériences que les tafs de bureau dans des grandes compagnies. Où oui, tu vois ton collègue qui fait ça parce qu'il doit manger et pas parce qu'il est en apprentissage pour un master, blablabla. Complètement. Mais dans cette position de jeunes qui avons le choix, mon choix, je l'utilise dans ça. Je l'utilise dans choisir un contexte où je me sens respecté et où tu peux me stimuler, me mettre au défi et tout. Mais la tête de homme, tu vas pas me manquer de respect.
Ouais, t'as un seul père.
Je t'afflais un été qui fait garagiste, qui vend des outils de voitures. Soit Noroto, soit Feu Vert, soit machin. Dans cette gamme-là. Problème de rendu de monnaie, c'était mon client, j'ai suivi le truc, j'avais la solution. Le comptable de la boîte qui me pousse, yeah, laisse-moi gérer. Je dis, bah, vas-y, démerde-toi. Et je pars. Il me rattrape une heure plus tard, viens dans mon bureau. Et commence à me crier dessus. Et je lui dis, hey, bip le nom, je suis pas ton fils, arrête de me crier dessus. Mais encore, t'es pas mon fils, machin. Je vais te rentrer dedans. Mais non, arrête de dire ça. Et fin. Il n'y a que ça que je tolère pas. Et ce qu'on risque d'évoquer du coup dans notre cher Chère émission, les petits préjugés raciaux, tu vois.
Moi,
on va en parler.
Du coup, pour le coup, quand j'ai commencé à bosser dans la tech, je me suis syndiqué.
Ouais, tout de suite.
Ouais, franchement, ça n'a pas attendu. Dès que j'ai commencé.
C'est quoi se syndiquer ? Comment ? Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien ? C'est okay. Quoi ?
Alors, du coup, moi, je suis à un syndicat qui s'appelle Solidaire Informatique, qui fait partie d'une union de syndicats qui s'appelle l'union de syndicats donc Solidaire et Sud. Donc en fait tous les syndicats Sud et Solidaire sont ensemble dans une union. Donc Sud c'est les syndicats t'as Sud Commerce par exemple, c'est pas des syndicats du Sud de la France.
Ouais voilà,
c'est des syndicats qui ouais historiquement sont pareil en fédération, donc c'est des petites antennes locales
okay.
qui collaborent entre eux et c'est voilà. Et donc t'as cette union de syndicats, donc qui est pas une grande fédération comme la CGT. Et du coup moi je suis dans une branche d'Île-de-France qui s'occupe des gens qui travaillent dans la tech.
Ok.
Qu'est-ce que ça change au quotidien ? Alors au quotidien rien. Tous les mois je paye mon adhésion qui est basée sur un pourcentage de mon salaire. Donc en fait voilà c'est équitable. Gens payent ce qu'ils peuvent basé sur leur fiche de paye. Et qu'est-ce que ça me donne ? Ils font des formations droit du travail. Ils font des formations comment gérer quand quelqu'un est ciblé par les managers, comment gérer quand il faut négocier parce qu'il y a des licenciements. Et ça touche, il y a des trucs qui touchent, mais pas que le bas du panier. Hein. J'ai un ami qui a bossé dans une grande boîte de tech qui avait une branche française, donc un peu jeune, un peu moderne, et licenciement massif. En 2020.
Plan de départ volontaire, tout ça là.
Plan de départ volontaire. Alors, pour le coup, non, parce que pour la branche française, ça a été un truc économique.
Ok.
Mais du coup, ça lui a bien servi.
Ouais.
Et c'est un mec qui est mieux payé que mes parents, alors qu'il a 30 ans de moins, tu vois, ou
ouais.
Peut-être 25 ans de moins que mes parents. Donc, véritablement, ça touche tout le monde. Et c'est vrai que moi, j'ai eu aussi une histoire assez spéciale dans le sens où mon premier taf dans la tech, je me suis avoir comme pas possible. Après, tu vois, j'étais peut-être pas super aware quand je faisais mes cours de droit du travail en école de commerce,
ouais.
Mais globalement, et peut-être ça, c'est un truc qui peut en aider d'autres. En fait, ils m'ont fait signer un CDD qui, de base, c'était convenu comme étant voilà, je commence ce mois-ci, je finis ce mois-là, et c'est marre. Donc CDD, sauf qu'en fait le CDD il n'a pas de date de fin. Et en fait un CDD qui n'a pas de date de fin, voilà, il est automatiquement transmuté en CDI. Et comment est-ce que tu romps un CDI ? Eh bah, ben tu le romps avec un merde, comment est-ce qu'on dit ça ? Un truc de départ volontaire en fait.
Ouais, un plan de départ volontaire. Ouais.
Non pas un plan de départ volontaire.
Un plan c'est global, ça.
C'est ça. Ouais non là tu parles à l'échelle d'une seule personne.
Une
rupture conventionnelle.
Voilà, ok.
Et en fait, la rupture conventionnelle, elle te donne moins de sous en termes de prime de précarité que ce que t'accorde une fin de CDD.
Ok.
Donc ensuite, donc la rupture conventionnelle, elle a été envoyée à un organisme qui s'appelle la Direct, il me semble, et pour que ce soit approuvé. Parce qu'on ne peut pas faire des ruptures conventionnelles à tirer l'arrivée comme ça. Ça n'a pas été approuvé. Donc là, on approchait de la fin de mon contrat. Parce que moi, j'avais déjà planifié la suite. Quand je savais qu'ils n'allaient pas me reprendre pour un autre truc. Donc voilà, moi j'étais en train de me barrer. Et donc ils refont le truc et tout, ils le réenvoient. À chaque fois ça prend une semaine, deux semaines, tu vois. Et là, tu sais, toujours. Et là, tu sais, je commence à capter qu'en fait c'est un truc qui va pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la Direct, elle n'aura jamais approuvé la rupture conventionnelle. Et du coup, ils m'ont fait signer un CDD antidaté. Et un peu la mort dans l'âme, ils m'ont filé mes primes de précarité et de trucs de départ. Voilà. Et c'est là que je me suis dit, putain, imagine, genre, il y a un grain de sable dans l'engrenage global du truc. Ben, en fait, on m'aurait dit, allez, ciao, bye bye. Et en fait, sans me filer la thune, voilà.
Complètement.
Et donc, c'est ça qui m'a poussé à. Et qui m'a réconforté dans l'idée que, ben voilà, moi, il me faut un soutien légal. Parce qu'en fait, mon employeur, c'est pas mon pote.
Ouais.
Les RH, c'est pas mes potes. Les gens qui sourient et qui sont Chief Happiness Manager,
c'est
pas mes potes. C'est les chiffres happiness de la direction, pas d'employés. Et donc voilà. Et du coup, maintenant, au travers de mon syndicat, bah, j'ai un soutien légal que je sais qui m'est dû parce que je paye, parce que là, on manifeste et tout. Et très clairement, bah, je suis content voilà, d'avoir un sentiment d'appartenance dans un groupe qui peut avoir mes arrières. Mais ça, c'est aussi un peu l'objet de toute communauté finalement.
Ouais.
Donc voilà. Et ouais, peut-être parlons aussi de l'autre truc dans le monde du travail. Quand on est franco-maghrébin, maghrébin de France, ben c'est la couleur générale des draps quand on arrive. J'ai jamais trop bossé avec des personnes de couleur dans des milieux de la tech. Sauf. Ouais.
Vas-y, continue.
Sauf en ce moment. Ah, je bosse pour une boîte suédoise.
Okay.
J'ai jamais vu autant de rebeux. J'ai jamais vu autant de rebeux de Suède. Les rebeux de Suède, franchement, ils ont l'air de s'en sortir bien mieux que nous. Après, je sais pas si c'est une question de classe sociale parce qu'ils sont peut-être en majorité plus nantis que les rebeux de France. Ce qui est un truc aussi à prendre en compte. Par exemple, aux États-Unis, par exemple, tu vois, les Cubains qui sont partis après la Révolution, c'est pas les wetbacks mexicains, tu vois. C'est des mecs qui étaient des bourgeois et qui ont fui la Révolution. Les premiers immigrés asiatiques qu'on a fait entrer sur le territoire américain, c'était des gens extrêmement éduqués parce que t'avais une énorme sélection à l'entrée des Asiates.
Ouais, je comprends.
Donc voilà. Et c'est pas du tout de la main-d'œuvre en fait. Et voilà. Et du coup, ouais, franchement, la boîte dans laquelle j'étais avant, dans le département d'ingénierie, t'avais deux Asiates, les Renois qui étaient là, ils étaient en stage, ou ils étaient pas là pour rester, genre alternance et tout. Et ouais, véritablement, on était peut-être deux rebeux dans tout le délire.
C'est étonnant, j'ai pas du tout la même expérience. J'ai beaucoup, beaucoup de collègues
ouais.
originaires du Black, enfin, qui sont nés et qui ont grandi au Maghreb,
ouais.
qui se sont formés pour certains au Canada, pour certains en ouais. France, un peu partout. Et qui sont juste des pointures.
Ah, mais...
ils partent, on éteint la lumière.
Ah non, absolument, c'est absolument. Tout. Et c'est pour ça aussi que je soulignais le côté, c'est pas juste une question d'origine.
Ouais.
Parce que, vas-y, les Algériens, Maghrébins, Tunisiens qui peuvent aller au Canada.
Bah ouais, ouais.
Vas-y, tu vois, c'est.
C'est pas ceux qui ont été envoyés pour travailler à Peugeot. Dans
ouais, voilà, tu vois, c'est pas 70, même leurs ouais. descendants, tu vois, ou dans une moindre mesure. Et c'est vrai que pour le coup, c'est une distinction que je voulais opérer, c'est pas juste une question de race, c'est aussi une question de classe.
Mais. Alors du coup là on parle du monde professionnel,
ouais.
quand même à l'avenir, si, l'avenir du monde professionnel, tu le préchotes un peu en regardant le monde étudiant, les filières informatiques et les filières informatiques et technologiques sont quand même très diversifiées en termes d'origine et de parcours de mon expérience en tout cas.
Okay. Bah, ça faudra qu'on en parle parce que je pense que Lina a une naissance un peu différente.
C'est ça. Moi, j'allais intervenir. Je trouve que, en tout cas, dans ma fac, c'est pas le cas. Genre, pas du tout. Enfin, en fait, t'as un truc où, dans les filières informatiques, t'as une majorité de personnes blanches, des personnes asiatiques, pas mal d'asiatiques, et souvent des asiatiques qui viennent directement, genre beaucoup de Chinois en fait, qui viennent directement de Chine. Et les personnes. Qu'on va voir d'Afrique en général, donc j'inclus ouais. Le Maghreb dedans. Mis à part moi et quelques autres personnes, ce ne sont que des personnes qui ont fait leurs études là-bas.
Ok.
Et qui ont grandi là-bas.
Donc
qui ont passé
le haut du panier, qui ont réussi à avoir ouais. des études à l'étranger.
C'est ça. Genre moi, enfin tous mes potes rebeux de la fac, c'est quasiment, à part quelques-uns, genre mais vraiment ça se compte sur les 10 doigts d'une main, c'est que. Des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Sénégalais, des gens qui ont fait leurs études dans leur pays d'origine et qui sont venus soit après le bac, soit après la licence, carrément.
Ok.
Mais du coup, par contre, genre les descendants, enfin, ceux qui sont issus d'une minorité et qui ont grandi, qui sont nés ou pas et qui ont grandi, qui ont grandi en France, moi je les vois pas.
En fait,
dans ma fac, en tout cas, je les vois pas. Après, je sais pas, toi t'es dans le public ou dans le privé ?
Je suis dans le privé.
Ouais, il y a de ça aussi, hein. Parce que, je sais qu'après, il y a beaucoup de différences entre public et privé, genre. Et il y a beaucoup de différences aussi entre école et fac.
Tu sais que le côté. Je dis pas. Équilibre, machin. Mais le côté majorité de blanc, ouais. il me choque plus. On est en France, tu vois, genre. Mais quand le ratio est un peu plus élevé, je trouve que c'est diversifié. Donc c'est-à-dire que je dis pas qu'il y a 20%, 20%, 20%, 20%.
Ouais.
Mais je dis juste qu'on n'est pas 4. Tu vois ouais. On n'est pas 4 dans une promo. Alors qu'il y a d'autres secteurs, d'autres filières où c'est encore... Enfin, la jauge est beaucoup plus basse.
Ah oui, bien sûr.
Moi, en fait, je le voyais genre par année, tu vois. Genre, en licence, c'était une population. Et plus tu montes, et plus en fait ça se trie, tu vois. Il y en a qui partent, il y en a qui vont faire d'autres choses et tout. Et moi par exemple dans ma promo, il y a genre sur peut-être, enfin pas, je vais pas prendre que moi, mais genre tous les masters d'informatique, il doit y avoir trois noirs à tout casser, tu vois. Après genre il y a quand même une grosse diversité même en termes enfin de personnes et de religions, genre enfin tu vas un amphi d'étudiants en informatique, t'as des gens qui portent une kippa et t'as plein de meufs voilées et ça pose problème à personne, genre. Mais t'as ce truc où bah en fait moi j'ai, enfin en tout cas moi j'ai l'impression que les rebeux c'est vraiment des rebeux du bled, genre. C'est pas du tout les rebeux de France. Donc, voilà.
Ouais, ça, ça m'étonne pas du tout pour le coup. Et c'est pour ça d'où c'est peut-être pas un choc, mais quand, mais franchement j'étais grave refait quand j'ai vu que dans la boîte qui est suédoise, il y avait autant de personnes haut placées qui sont des rebeux et issus de l'immigration et tout, et franchement ça m'a un grave refait. Et des voilà, des suédois, des rebeux de Suède et tout qui sont bien intégrés, qui font tas de trucs.
Et cette ascension elle s'est beaucoup fait par rapport à l'expertise
plus ouais,
que par rapport au management ou au politique, tu vois. C'est là où je sentais, où je disais que mes collègues d'origine maghrébine, s'ils partent, on éteint la lumière.
Ouais.
C'est parce que s'ils sont là où ils sont, c'est parce que c'est des pointures.
C'est
pas parce que coup de coude dans les bureaux.
Absolument.
Mais alors, moi, je vais venir parce que du coup, comme j'ai évolué dans un milieu qui est super différent, en fait, moi, j'ai une expérience tout autre. Comme j'ai commencé dans un média de rap. Après, j'étais dans un autre truc plus lifestyle. Après, j'ai bossé avec telle marque. Et en fait, et j'ai monté Vraie Meuf, La Taille, ou Vraie Meuf, on n'est que entre go ou non-binaire, ou tu vois. Et La Taille, où en fait, on n'est que entre rebeux, et que tout l'écosystème que je me suis créé, il est tellement dans ça que... en fait moi j'ai bossé que avec des gens qui me ressemblent, j'ai bossé que avec des trucs où je pouvais débarquer en salle de montage en jogo claquette et
c'est génial,
et que personne allait dire bip, et que genre je peux parler de ce que je veux où j'ai pas de convention sociale, genre vraiment c'est ça, tu vois, enfin j'ai pas de règles sociales à respecter de faut s'habiller comme ça, faut être comme ça, faut pas dire ça, tu vois.
Ah, je les retiens, les wesh au bureau.
Enfin, nous, voilà, moi, ça parle en wesh à mort, il y a tout le monde qui s'en fout. Et après, j'ai eu la chance aussi, dans l'expérience que j'ai eue, du coup, cet été, tu vois, d'être, même si, pour le coup, j'étais la seule fille et la seule rebeu, et j'étais quand même dans un cadre où on mettait du son au bureau, je parlais comme je veux, je m'habillais comme je veux, c'était hyper open. Enfin, après, tu vois, enfin, les... T'as un truc où vraiment, genre, j'étais hyper à l'aise. Et après, on m'avait déjà parlé... Enfin, il y avait déjà quelqu'un qui avait bossé dans cette boîte et qui m'avait dit, tu vas voir, c'est d'art. Et du coup, genre, même dans ce... C'est-à-dire, même si j'étais pas avec des personnes issues de minorités ou quoi, t'avais ce truc où il y avait une ambiance qui faisait que c'était hyper chill. Mais par exemple, je sais aujourd'hui que ça, c'est un critère hyper important pour moi.
Ouais.
Je sais que demain... Si je dois choisir une entreprise pour bosser quelque part, en fait, je me suis rendu compte que la chance que j'ai eue, tu vois, d'évoluer dans ces milieux-là, et j'ai besoin, genre, que les gens autour de moi, ils captent, en fait, tu vois, ils captent qui je suis, comment je suis, et ils captent que ce n'est pas la façon... qu'en gros, mon apparence n'a aucune importance, et la façon dont je m'exprime n'a aucune importance sur la qualité de mon travail, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment, vraiment, vraiment un luxe, par contre, de bosser dans des milieux qui sont comme ça. Après, à voir le jour où je vais devoir, où j'aurai fini la school et où je vais devoir trouver un vrai taf, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mes critères qui vont devoir sauter. Hein, mais...
Alors, ça glisse la question d'après.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on se souhaite? C'est quoi le projet, là? Qu'est-ce qu'on se souhaite, professionnellement?
Personnellement... je pense que là, je sais ce que je veux plus.
Ouais.
Franchement, parce que moi, je suis pas arrivé dans l'info en étant un génie. Très clairement, j'avais beaucoup à apprendre. De toute façon, j'apprenais par moi-même, en fait. J'avais toujours appris par moi-même. J'ai pas fait d'école. Donc, pour le coup, quand je suis arrivé dans l'info et quand j'ai eu mon premier gros taf, ce qu'il m'aurait fallu, c'était un manager qui puisse me guider, me faire apprendre,
m'envoyer faire des trucs qui puissent me faire grandir. Et ça n'a pas été le cas, et c'était une sorte assez désastreuse. Et du coup, là, le taf que j'ai maintenant, il est bien plus en phase avec ce que j'attends pour être meilleur, en fait. Parce que moi, finalement, je veux juste devenir la meilleure version de moi-même, dans un sens. Et du coup, pour le coup, ben ouais, en fait, moi, ce qu'il me faut, c'est un chemin où je peux progresser et je peux être meilleur. Parce que je sais que si jamais je passe du petit bain au grand bain sans bouée, je me noie. Vraiment comme une merde, hein. Mais il n'y a pas de honte, hein, franchement.
Ouais, parce que c'est à peu près vrai pour tout le monde.
Bah ouais, alors après, c'est aussi ça le paradoxe, c'est que je côtoie tellement de génies, mais tellement de ouf. Parce que c'est moi, j'ai pas fait genre licence, master, doctorat. Moi, j'ai commencé à apprendre genre à tous les râteliers. Après, je suis sur Twitter et j'ai commencé à fréquenter des gens, tu vois, mais des gens. Putain, c'est quoi, un jour j'étais à un resto avec des gens d'internet, parce qu'évidemment, c'est comme ça que j'ai rencontré plein de gens. Ouais. Et là, t'as un mec qui me dit. C'était quoi, c'était deux immigrés canadiens et tout en France, et il me dit ouais, au fait, c'est quand que t'as ton doctorat, parce que du coup avec ma boîte on a le crédit impôt recherche et tout, et ça nous coûte moins cher d'embaucher des doctorants. Je fais, gros, je suis en première année de prépa, je sais même pas si je vais continuer les études après cette année, tu vois.
Genre, non, tu me parles de doctorat,
mais tu vois, mais à ses yeux c'était l'évidence même, voyons, je traîne dans des milieux super pointus, super, tu vois, des trucs de ouf. C'était évident que j'allais faire un doctorat et que après, tu vois, ça allait.
Mais il a commencé sa phrase en disant je suis pas un génie.
Mais non, mais
tout le monde le prend pour un futur doctorant.
Voilà, et du coup, voilà, et je dis quoi ? Mais voilà. Donc après, il y a tous ces côtés. Je suis allé super vite à un moment, et là, il faut que je ralentisse un peu parce qu'en fait, le monde du travail, il est impardonnable.
Mais donc, en plus de vouloir devenir la meilleure version de toi-même, là, de ce que je comprends, de ce que tu me dis, tu veux être le. Manager slash collègue que t'as pas eu
pour d'autres personnes. Très bien. Ouais, grave. Franchement, grave. Mais tu sais, c'est aussi la force motrice derrière la plupart des choses que je fais pour l'open source dans ma communauté. C'est je veux être la personne que j'ai jamais eue. Je veux être la personne qui enseigne que j'ai jamais eue pour m'enseigner. Je veux être la personne qui me fait grandir puis que j'ai jamais eue pour me faire grandir. Et maintenant que j'ai des modèles vachement plus positifs de choses comme ça, bah ça oriente encore mieux. Qui je veux devenir pour les autres.
Ça rejoint complètement au final la démarche qu'on a avec la taille.
C'est exactement ce
ça que rejoint complètement la démarche ouais, que j'ai ouais. avec mes livres.
Ouais.
Où j'ai... en bas de chacun de mes livres, j'écris pour ceux qui ne lisent pas, mais ceux pour qui on n'a jamais écrit. Ouais. Au final, j'ai l'impression que on a quelque chose à faire
nous,
en tant que génération, en tant que créatif, etc. De parler à certaines personnes très précises.
Ouais, bien sûr.
Et que t'exportes ça jusque, enfin que t'exportes cette volonté jusque les bureaux, c'est rare. Même moi, j'ai pas pensé que je pouvais avoir cette démarche dans des instances aussi rigides que ça. J'avais pas visualisé ça comme ça. Et en fait, t'as complètement raison.
Ouais, c'est ça.
Attends, Léna, on te souhaite quoi ?
Ah putain.
Hugo Claquette forever.
Alors là, dans le monde du taf, franchement, j'ai
déjà
pas de
gros,
mytho. Moi, si je pouvais choisir, si je pouvais juste avoir de l'oseille sans bosser, je le ferais. Tu vois.
Ah, bah, y a pas de honte, hein, franchement, y a pas de honte.
Déjà, elle m'énerve. Parce qu'il y a quelques mois, on avait dit l'ENSA, non, le programme spatial, là, après nos masters.
Ouais, ouais.
Inch'Allah, on aura le master en même temps.
Ouais, ça carrément, j'avais oublié. Hein.
Ouais, je sais que t'as oublié, c'est pour ça que je m'énerve. Post-master,
ouais,
évidemment, on lance une aventure de. On essaiera d'aller aussi loin que possible dans la sélection du programme spatial européen.
Ah
ouais.
Oh, yes. Oh, yes.
Non, mais parce que j'ai eu plein d'autres objectifs aussi en même temps, faut que je t'update. Mais en gros. Je sais pas, en vrai, moi je suis, tu vois, dans la vie, genre je suis là, je vibe. Genre.
Ouais, ça.
Enfin, t'as vu, genre je fais des trucs qui n'ont aucun sens les uns avec les autres.
Avec le temps, j'ai commencé à comprendre.
Genre, tu sais, le jour où j'ai raconté genre, à un pote de ma classe ce que je faisais en dehors des cours, il m'a dit, mais tu fais quoi ici ?
J'ai eu le droit, ouais.
Il m'a dit, mais tu fais quoi ici ? Mais qu'est-ce que tu vas te saouler avec des complexités d'algorithmes et des modélisations de graphes ? Alors que tu fais ça, mais genre en mode ouais, mais c'est d'art, genre on s'amuse et
ouais,
tout.
C'est sympa.
Et vraiment, j'en ai aucune idée. Je sais même pas ce que je veux faire plus tard. Je veux juste bosser dans un truc que je kiffe. Enfin, je veux juste faire un travail que j'aime bien. Je pense que je vais faire un travail qui n'existe pas encore aujourd'hui. Moi, je suis persuadée de ça. Genre que la chose, en fait, que je sais pas ce que je veux faire parce que ce que je suis censée faire, ça n'existe pas encore. Tu vois, genre
ouais,
dans le passé
probable,
encore.
Hein.
Mais je sais pas, moi j'ai envie que... En fait j'ai envie que... Je me dis, tu sais, on travaille une grosse partie de notre vie. J'ai juste envie de me lever le matin et de me dire, ok, genre là c'est d'art, genre je vais découvrir plein de trucs, je vais faire plein de trucs. Ouais. Genre, on est obligé de bosser, tu vois, donc autant le faire en étant content.
Ah ouais.
C'est vraiment ça, genre. Après, tu vois, genre, si tu travailles dans quelque chose que t'aimes, tu ne travailleras jamais, ça, j'y crois pas.
Non, non, non. Tu travailleras chaque minute, chaque seconde.
Tu travailleras juste avec plaisir, tu vois. Et venir en jogo, genre, être moi-même, je pense. Genre, être dans un taf. Moi, en fait, j'ai besoin d'être moi-même dans la vie en général, et le taf, c'est, ça reste une grosse partie de ta vie. Je pourrais pas jouer un rôle ou faire semblant.
Mais j'aime bien ta conclusion de. Peut-être que je sais pas, parce que ça n'existe pas encore.
Ouais.
Bah ouais.
C'est
légit, hein.
C'est une perspective de malade qui, j'espère, en réveillera et en chauffera plus d'un, tu vois.
Nos projets type La Day, nos projets type Vraie Meuf, nos projets type mes livres, nos projets, genre. Ça, tu mets quelle place là-dedans, genre.
Comment je vais revenir sur la même chose? Moi, je suis là, je vibe. Genre, si je peux aller haut, j'irai haut. Si je dois rester au même level, je resterai au même level. Genre, je considère pas que c'est ça. Enfin, ma réussite à moi, en tout cas, elle se place pas dans. À quel point mon projet va être huge ou pas.
Ouais.
Genre, elle se place juste. Ma réussite, elle se place dans est-ce que je m'amuse et est-ce que je peux gagner ma vie comme ça, tu vois. C'est vraiment ça. Et quand je dis gagner ma vie, je parle pas juste par exemple de la taille ou de Vraie Meuf ou des études, mais genre juste de en général,
le package,
tout ce que je fais, tu vois, le package.
Lina Adventure.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Est-ce que demain, genre, je peux vivre sans trop regarder mon compte et est-ce que je m'amuse? Je pense que c'est les deux facteurs. Que le projet soit huge ou pas. Il y a des gens, ils ont des projets qui sont pas si huge que ça et qui vivent très très bien. Il y a des gens qui ont des projets qui sont énormes, hyper connus et qui vivent pas bien du tout.
Ouais.
CF, les tweets sur les podcasts.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Des mecs qui ont des milliers d'auditeurs réguliers et qui se font.
Qui mangent rien, en gros.
Ouais.
Oh là là, on vous le souhaite pas.
Et donc non, enfin, personnellement en tout cas, je. Après, chacun est libre, tu vois, genre, je trouve ça très. Enfin. Genre, il y a des gens, tu vois, genre, eux, leur objectif, c'est, je sais pas, il y a plein de gens qui vont dire, moi, mon objectif, c'est que mon album, il soit acheté à, je sais pas, 1 million d'exemplaires. Moi, mon objectif, c'est que ce travail soit reconnu par.
Regarde, par exemple, l'objectif de mon premier livre,
ouais.
Et l'objectif jusqu'à. Je pense que j'ai 3 livres en cours,
okay.
3 séries de livres en cours. Le premier, c'était pour me lancer.
Okay.
Le deuxième, un peu dans la même lancée que le premier, c'est pour qu'il soit lu. Si je fais 1000 ventes, si je fais 100 ventes, mais qu'il y a 10 000 personnes qui me lisent en se passant les livres,
ouais.
Et tout, je suis refait.
Okay, ouais.
Je suis content de fou et je sais pas pourquoi je place. Je sais pas pourquoi ça me ferait autant plaisir. Plus d'être lu, même pas d'être reconnu, même pas d'être apprécié, même pas d'avoir un succès d'estime, juste d'être lu.
Parce que tu vis dans les gens, en fait.
Peut-être, tu vois, c'est cette aventure-là. Ouais. C'est peut-être pour ça. Enfin, me dire qu'il a trouvé son but.
Ouais,
c'est pas, j'en trouvais
un. Il y a absolument ça, ouais.
Et aussi parce que je me vois progresser. Dans le sens où je suis fier d'avoir accompli l'aventure du premier livre, mais je suis pas fier du livre en lui-même.
Okay,
c'est
ouais.
Pas une grande histoire.
Okay, ouais.
Avec des qualités que je défendrai.
Ouais.
L'intensité de l'écriture, etc. Genre le rythme et certaines originalités.
Okay.
Mais vas-y, c'est pas le prix Pulitzer, c'est pas.
Mais c'est pas grave.
Ouais, non, c'est pas grave.
Je suis super d'accord avec toi sur ça. Genre sur le fait que je privilégie l'aventure plutôt que le final. Genre, par exemple, genre mes goals, c'est des choses que je veux faire, mais c'est pas des. Supposons demain je veux faire un film. Mon goal, c'est de faire le film. Une fois que j'ai fait le film, qu'il soit vu ou pas, j'en ai rien à faire. Genre. Enfin. Je veux qu'il soit vu, tu vois, et je vais tout faire pour qu'il soit vu. Mais c'est pas mon objectif. Mon objectif, ça aurait été d'avoir réalisé ce film et qu'aujourd'hui, il existe.
Ouais. Alors, c'est peut-être différent parce qu'un film, tu le fais en équipe, alors qu'un livre, je l'ai fait tout seul. Et en fait, c'est peut-être pour ça que j'accorde autant d'importance à la phase d'après,
non, là,
qu'il soit lu et tout.
Parce que l'accouchement,
film.
Il est dur et que tu veux.
Mais parce que, gros, quand t'es tout seul devant tes pages, quand t'es tout seul devant tes pages. C'est sombre, ma gueule.
Mais ça,
oh là
mais
là
ça
là.
Peut être, enfin, à la place du film, ça peut être le podcast, ça peut être un article.
Ouais, Darman. Mais cette phase où t'es tout seul,
ouais.
C'est peut-être pour ça que l'idée que ça résonne chez plein de gens, elle est autant agréable.
Ouais, okay.
Parce qu'il y a une grosse phase de ton projet où, où t'es tout seul et où personne n'est au courant et où
okay,
tu,
oui.
Tu te mords les lèvres.
Genre. Okay, oui.
Ouais, ouais. Et j'ai plus l'idée d'après.
Non, non, mais c'est marrant parce que moi j'ai la même chose avec mon code.
Ouais.
J'ai publié un truc là, plutôt cette semaine et tout. Les gens, ils m'ont dit comment est-ce que je peux t'envoyer le thune pour ça. C'est pas un truc que je commercialise.
C'est un truc que c'est de façon assez bête. Genre, il y avait un truc qui me grattait, tu sais, je l'ai gratté à donf et j'ai publié le code, tu vois. Et t'as des gens, ils m'ont envoyé, mais. Ouais, 5, 10, 20 balles.
T'imagines.
En reconnaissance pour le travail fait à la communauté.
Exactement. Lina, elle disait qu'il y a des gens qui se font énormément d'argent sur Twitch alors que personne n'est obligé de payer.
Ouais, c'est ça, ouais.
Personne n'est obligé de payer. Il y a cette démarche de récompenser un travail qu'on t'a offert. Ouais. Et qui est pareil chez toi, qui est pareil avec Haroun aussi, qui est un peu en train de révolutionner ou de rajeunir le milieu du stand-up. Okay, Haroun, ouais. Le stand-upper.
Ouais, ouais, j'entends bien.
Le milieu du stand-up en France avec une plateforme. Un spectacle,
okay,
qui faisait payer au chapeau. Il a diffusé un spectacle sur internet.
Énorme.
Avec ce principe de sub.
Ok, ouais.
Tu vas pas payer pour le voir, mais si t'as kiffé, si t'as bien rigolé, vas-y, hein. Et il a marché là-dessus. Ensuite, il crée une plateforme où des artistes peuvent diffuser leur,
okay, ouais,
leur spectacle, soit sur cette démarche-là de payer au chapeau, soit vente de la petite vidéo.
Okay, ouais.
La collaboration. Ouais. La collaboration sur les projets, c'est peut-être un truc important. Du coup,
moi, si la taille dans 10 ans c'est encore là, sans avoir fait sans avoir été, si on devient pas millionnaire à cause de la taille, mais que la taille est encore là dans 10 ans, moi, je suis heureux. Franchement, je suis heureux parce que, imaginez, vous, au début de la taille, est-ce qu'on aurait pu faire un épisode sur le monde du travail?
Bah, bien sûr.
Oh,
que...
non.
Voilà.
Oh, t'imagines, au début, on était des bébés.
Wow.
On ouais. était vraiment.
Et plus que bébé, faut voir comment j'étais dans le flou.
Ça. Moi, j'étais dans mon premier taf quand on a fait les premiers épisodes de la taille. Ouais. Jamais j'aurais eu le recul. Et donc, moi, je pense que dans 10 ans, bah, on aura grandi, on aura 10 ans de plus dans les roues. Et en fait, on aura trop de trucs à faire. Et finalement, on accompagne aussi nos auditeurs et auditrices.
C'est ça.
Et je pense que le jour où on partira, on leur manquera à mort. Mais parce qu'aussi, on a su faire partie du tissu de la communauté. Ouais. Et je pense que c'est aussi ça le truc avec. On en revient au tout début, la chance qu'on a de ne pas en dépendre financièrement ou pour bouffer ou pour vivre.
Ouais.
Parce que. Et peut-être c'est aussi ça qui nous fait faire le contenu un peu qui vient des tripes.
Mmh.
La spontanéité.
Ouais.
On va faire une petite pause dans l'épisode. On va écouter un son d'un des artistes que je me suis le plus pris en 2021. Donc Rally, qui est un artiste, je crois qu'il est originaire de Bordeaux, il est assez, en vrai c'est un peu, je vais pas dire la scène underground, mais si quoi.
Pour l'instant, ouais.
La scène underground de Paname, un peu avec Ginueve, La Fève, tous ces artistes-là. Et du coup je l'avais découvert au début de l'année 2021 avec le morceau La Toile. Quand il allait sortir son album Layla, et je me l'ai pris de malade, et surtout la phrase « Ils aiment pas trop les rebeux intelligents ». On écoute La Toile de Khali sur la télé.
La nuit vient de tomber, on a fermé nos rideaux et on a éteint les étoiles. On oublie, on efface, c'était magnifique, on avait rien laissé dans le même état. J'avais mis beaucoup de verre et de blanc, mais au final j'avais gâché la toile. Que du verre, en pensant que ça donnerait l'espoir. Mais Rally est trop minuscule pour le monde entier, ouais je laisse voir. C'est pas pour un vieux 24 que je vais rattraper le stylo de la main droite. Les fautes d'orthographe dans mes notes valaient un paquet de souilles, au courant j'étais pas. Si tu capes, les slacks disent ne me reconnaissent pas. Still fighting, de l'équité, beaucoup de logique. On a grandi, on est plus trop petit. Ils aiment pas trop les rebuts intelligents. Ça fait zéro science pour eux. Dans les textes, personne peut être méritant. Honey s'inquiète car j'aime l'adrénaline. Numéro uno, numéro 10. Cette nuit j'ai pleuré beaucoup pour écrire. Moral gâché pour vous sortir un disque. Je vendrai de la tristesse pour sortir d'ici. Force pas le destin, on sait qui décide. Personne n'en parle mais on sait qui décide. J'ai un prénom en tête qui peut combler la rime. La nuit vient de tomber, on a fermé nos rideaux et on a éteint les étoiles. On oublie, on efface, c'était magnifique, on avait rien laissé dans le même état. J'avais mis beaucoup de vert et de blanc, mais au final j'avais gâché la toile. Que du vert, en pensant que ça donnerait l'espoir.
Chouf, les recommandations. Alors moi aujourd'hui j'ai deux recommandations. Ma première, c'est une série documentaire en podcast sur France Culture, donc qui s'appelle LSD, la série documentaire. Et c'est les 4 épisodes réalisés par Hajel Ben Boubakar, dont on a déjà parlé parce qu'elle anime le podcast Vintage Arab.
Absolument.
Qu'on aime beaucoup à la taille. Et donc là, elle a fait 4 séries documentaires où elle retrace en fait les années de lutte du mouvement des travailleurs arabes. Donc ça parle, enfin le premier épisode, c'est sur une cassette retrouvée d'une radio qui s'appelle Radio Asifa, qui était en fait la première expérience sonore et militante de l'immigration maghrébine dans les années 70. Et j'ai pas encore tout fini, je suis juste au premier pour l'instant, mais enfin ça me fait super plaisir déjà que bah, elle, depuis Vintage Arab, elle ait réussi à s'exporter jusque dans ces domaines-là et qu'elle puisse en fait continuer à raconter ses histoires de cette façon-là, et qui sont des histoires hyper importantes. Et elle a fait un vrai travail de recherche, un vrai travail de documentation. Elle a pris plein de témoignages de plein de gens. Elle a refait toute la Goutte d'Or, qui est d'ailleurs aussi son quartier. Il me semble qu'elle y est tout le temps. Et voilà, donc vraiment, je crois que c'est 4 épisodes sur l'histoire des travailleurs maghrébins, et je pense que c'est très intéressant parce que ça fait écho justement à l'épisode d'aujourd'hui où nous on faisait un peu l'état des lieux de commencer pour nous maintenant. Et la deuxième recommandation, c'est un café qui a ouvert rue Ponthieux à côté des Champs-Élysées qui s'appelle Azur Café. C'était un reco ?
Non, mais tu y es tout le temps fourré. Tout le temps fourré.
Et donc,
Lina.
Oui, parce que c'est en fait la cousine d'une pote qui a ouvert le café.
Excellent, excellent.
Et c'est la cousine de ta croix.
Ah, bah c'est génial.
Qui a ouvert Force le café. Et donc, le lieu est super, la déco est super, et les plats sont hyper bons. Et c'est vraiment en fait un café où, genre, enfin, moi maintenant j'y vais, je me pose, je me passe l'après-midi pour bosser. Après, t'as des potes qui te rejoignent, enfin, c'est hyper bien. Et en plus, c'est un endroit qui manquait, je trouve, dans ces quartiers-là. Donc, je sais que même à chaque fois que je reste là-bas, t'as toujours les gens qui viennent déjeuner le midi qui sont là en mode oh, il manquait des endroits comme ça. Et au niveau de la carte, en fait, c'est des saveurs. C'est un brunch, enfin c'est beaucoup de plats de brunch, mais on sort de l'avocado toast dont on a l'habitude. Mais t'as plein de trucs en fait qui vont vraiment, plein de plats genre hyper intéressants qui vont juste avoir une petite touche méditerranéenne, tu vois.
Oh yes.
Mais c'est pas en mode, c'est pas un truc genre hyper explicite, genre maghrébin ou je sais pas quoi.
Ouais.
Mais t'as juste à chaque fois le petit truc qui te rappelle des souvenirs, tu vois. Et enfin, gros love. Si je peux citer deux trucs, le chai latte est très très bon, les œufs parfaits aux champignons sont super bons, les figues rôties avec le labneh sont incroyables, et bah du coup ouais, maintenant en vrai j'y suis tout le temps, donc Azur Café.
Alors pour moi c'est une personne que j'ai rencontrée durant les chats de la pensée, c'est Tassoun Boumiza, qui est une photographe qui est de Montpellier et qui officie à Montpellier et à Paris. Elle a fait un taf super et j'ai eu l'extrême honneur d'être pris en photo par elle, et du coup j'ai aussi pris en photo, et franchement son taf sur Instagram est superbe, vraiment des jeux de lumière et de couleurs qui sont vraiment le truc qu'il me fallait en termes artistiques. Donc voilà, on mettra son Insta dans la description du podcast.
Si toi Lina, tu parlais du Azur Café où les plats sont divers avec la petite touche méditerranée. Moi, je vous parle très clairement d'une cantine kabyle qui s'appelle Majouja. Leur Instagram, c'est Majouja Paris. Je vais inviter, enfin, on va aller tout en équipe là. Je vais emmener mon daron là-bas. C'est une cantine, un restaurant kabyle. Kabyle, jusque dans les robes du personnel, jusque dans la musique, les accents, la langue parlée là-bas, les plats, c'est excellent. Enfin, l'ambiance m'a autant marqué que les plats, et j'ai trouvé ça, enfin c'était vraiment une superbe expérience, donc j'ai kiffé, je vous le recommande. Et la deuxième recommandation, la saison 4 de Dear White People, une série que j'ai beaucoup citée dans les épisodes, que je reciterai souvent, que je vous invite à regarder, et je vous parle d'une série Netflix. Ça permet à Lina de vous parler peut-être de la prochaine forme de contenu, de la prochaine forme d'événement qu'on va organiser.
C'est ça, en fait, nous on kiffe cette série dans l'équipe et on se disait pourquoi pas la regarder avec vous. Donc pour ceux qui ont un compte Netflix, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une plateforme qui avant s'appelait Netflix Party, je crois que maintenant c'est Télé Party. Et en fait, ça permet de lancer des sessions en ligne où tout le monde peut regarder la série en même temps. Donc on s'était dit que ça pourrait être intéressant, en fait, de, par exemple, à hauteur d'une fois par semaine, on se donne un créneau, on vous balance un lien sur les réseaux et vous venez regarder la série avec nous. Ça fait que quand on met pause, ça fait pause pour tout le monde. En fait, t'as un chat à côté qui est ouvert où tu peux parler en même... Enfin, tu peux interagir, c'est ça, en même temps que la série, et on pourrait débriefer après. Nous, ça nous ferait super plaisir, surtout que c'est des séries qui ont, bah, notamment The White People, où t'as beaucoup de thèmes hyper
proches de ce qu'on a évoqué, ouais.
C'est ça, super proches, qui sont abordés, et que ça nous ferait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous en direct, du coup. Et voilà, si c'est une idée qui vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer des messages et à nous demander. On essaiera de faire ça incessamment sous peu.
Vous aurez les réactions à chaud de Sidox.
C'est ça.
Je suis expressif de baiser.
Aucun filtre, rien.
Vraiment
du tout.
Des. Oh my god.
La Tchei est un podcast produit et réalisé par Lina Malandro avec Sidox, Amel, Ziet, Théophile et Blaise. Toutes les infos de l'épisode sont à retrouver dans la barre de description et sur notre site www.latcheipodcast.com. Cet épisode de La Tchei a été enregistré dans les locaux de Yard. On les remercie pour leur accueil. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou Deezer en tapant La Tchei, LATAY, sur votre plateforme. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles, 5 de préférence, et à venir échanger avec nous sur Instagram et sur Twitter, @LATAYPODCAST. On se retrouve bientôt, inchallah.